Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Toutes les 2 à 3 semaines, je reçois un ou une prof passionnée de yoga pour échanger sur cette pratique qui modifie notre rapport au corps, qui impacte notre santé et notre façon de voir les choses, bref, qui infuse notre quotidien. Alors, est-ce que vous avez vos petites habitudes lorsque vous vous installez sur le tapis ? Peut-être que vous aimez allumer une bougie ou de l'encens pour vous mettre dans l'ambiance, ou chanter un om pour ouvrir ou clôturer votre séance. Aujourd'hui, on va parler avec Charline Girardel de tous ces petits rituels qui entourent nos pratiques de yoga et de ce qu'ils peuvent nous apporter. Bonne écoute ! Bonjour Charline, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour Laura, c'est un plaisir.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ta découverte du yoga et de ton approche, toi, quand tu l'enseignes ?
Oui, alors je m'appelle Charline Girardel, donc je suis prof de yoga depuis 5 ans maintenant. Je suis également auteure, donc auteure de Mon cahier, mes rituels yoga aux éditions Solar. Comment j'ai connu le yoga ? Eh ben, de manière un peu particulière, en fait, j'ai été malade, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu une hémiplégie qui m'a empêchée de bien marcher pendant plus d'un an. Et je suis allée voir une ostéo qui apparemment ne pouvait plus rien faire pour moi. Et la porte d'à côté, c'était un gros Bouddha, quoi, un vrai Bouddha, qui faisait du yoga traditionnel thérapeutique. Donc, ça englobait vraiment beaucoup de choses dans la thérapie. Je suis allée le voir avec beaucoup d'appréhension parce que pour moi, le yoga, c'était vraiment, je vais vous le dire, c'était nul. Pour moi, ça ne servait à rien. Je ne voulais pas du tout rentrer là-dedans. J'avais une énorme appréhension, mais en même temps, bon, bah, au point où j'en étais, j'avais plus rien à perdre. Alors, j'y suis allée. Ça s'est super bien passé. On a beaucoup discuté. Petit à petit, j'y suis retournée. Alors, on ne faisait pas du yoga à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas d'asana pour démarrer, puisque de toute façon, j'avais toujours un problème d'hémiplégie. Donc, c'était très compliqué, mais il y a eu une super approche de ce que le yoga peut représenter et donc beaucoup de thérapies manuelles pour démarrer. Et ensuite, petit à petit, on s'est mis aux postures et j'ai retrouvé vraiment l'usage de mes jambes, de mes bras sans problème. Ça a été vraiment un miracle et je me suis dit, mais c'est juste génial en fait, le yoga vient de me sauver la vie.
Oui, donc ça a commencé par une expérience très forte, toi avec ton propre corps, quoi.
Exactement. Donc du coup, ayant des problèmes de santé, j'ai pas eu le droit à ce qu'on peut avoir en aide ou d'accompagnement par l'État, parce que c'était pas reconnu, parce que c'était compliqué. Donc je ne pouvais plus, moi, travailler. Il fallait bien que je trouve un moyen de faire quelque chose de ma vie. Et je me suis dit, bon, bah finalement, je suis pas trop mauvaise au yoga, ça me plaît plutôt bien. Et c'était juste pas possible pour moi d'aller faire une formation, on va dire, classique, entre guillemets, où tu pars pendant un mois, où tu vas régulièrement, ou même tu te lèves tôt pour y aller, tu y vas toute la journée, tu fais des cours toute la journée, c'était juste pas possible
pour
moi.
Oui, toi, à l'époque, avec ta maladie, tes problèmes de santé, ça te paraissait pas faisable sous ce format-là, en fait, c'est ça ?
Oui, c'était pas faisable, et c'est exactement ça, physiquement, c'était pas tenable. Et moralement, je pense que ça aurait été dur aussi de tenir en fait sur la distance, enfin tenir sur le rythme en fait. Du coup, mon professeur de yoga était agréé formateur, donc il a pu m'enseigner, mais à mon rythme. Donc c'est pour ça que j'ai une formation assez atypique, qui n'en reste pas moins qu'une formation classique, mais qu'on a pu adapter sur du long terme, qu'on a pu adapter dès que ça n'allait pas. Et puis que j'étais toute seule, en fait, surtout. Ouais. J'ai fait une formation où j'étais toute seule. Donc, on adaptait vraiment tout. C'était une vraie transmission de savoir. Et c'était ça qui était, enfin, c'est ça qui était chouette. Et c'est ça aussi le yoga. Hein. C'est, parce qu'il y a t'as des formations très scolaires, enfin scolaires entre guillemets, mais je veux dire qu'ils sont très classiques, où on est tous un peu dans le même moule et tout, et t'as d'autres formations où c'est vraiment un enseignement où on te transmet vraiment tout ce qu'on sait. Donc comme mon prof n'était pas que prof de yoga, c'était cool, j'ai appris plein de choses et j'ai pu petit à petit me lancer. Alors lui, il pensait que j'étais prête depuis très longtemps, mais moi, ça a dû mettre du temps pour mûrir dans ma tête et me sentir un peu légitime, on va dire. C'est toujours un peu compliqué de se lancer. Et finalement, bah, j'ai ouvert mon statut d'auto-entrepreneur pour être prof de yoga. Et ça se passe super bien et je suis ravie d'enseigner aujourd'hui.
Et est-ce que d'ailleurs tu enseignes du coup à tout public ou est-ce que tu t'es tournée vers des gens qui avaient des besoins spécifiques peut-être comme toi au début
Non, je reste vraiment dans un enseignement pour tous. J'ai beaucoup de débutants. Moi, je suis dans une région où le yoga, bon, c'est pas trop, c'est connu, mais c'est pas trop reconnu. On n'en fait pas trop. C'est toujours des a priori comme moi je pouvais en avoir au début. Enfin, voilà, ce sont des débutants, donc les cours sont vraiment ouverts à tous. Après, des gens qui ont des problèmes de santé, on se rend compte qu'il y en a pas mal. Donc au final, ça reste là dans mes élèves actuels. Et je démarre toujours mes cours justement en disant bien, bon, si vous avez des petits soucis de santé, et je sais qu'on en a tous un peu, des petites douleurs et compagnie, il suffit simplement de me le dire, moi je comprends en fait. Je comprends et du coup, on peut adapter.
Et alors tout à l'heure, tu nous parlais donc du livre que tu as écrit chez Solar qui s'appelle « Mon cahier, mes rituels yoga ». Donc est-ce que toi, dans tes cours ou dans ta pratique personnelle, tu associes toujours des petits rituels à une séance de yoga ? Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu lesquels et pourquoi ça te semble important dans ta pratique ?
Alors, dans ma pratique personnelle, on va dire, j'ai des petits rituels, mais vraiment, vraiment tout simples. J'allume une bougie, je mets un peu d'encens et ça me convient, ça me suffit, on va dire. C'est ce que moi, j'aime. Simplicité, mais efficacité, parce que du coup, ça me met vraiment, moi, dans mon ambiance à moi et toutes mes pratiques perso sont toujours très différentes. Après, dans l'enseignement du yoga, donc en cours collectif, c'est plutôt au niveau de l'enseignement que je vais instaurer un espèce de rituel, c'est-à-dire que je vais commencer mes cours et finir mes cours à peu près de la même manière en posture Shavasana. Ça met bien dans la bulle yoga. Dès que les élèves arrivent, ils sont trop contents de commencer par du Shavasana et on termine pareil, on boucle la boucle en fait. Et du coup, ouais, ça leur fait vraiment un petit cocon d'une heure, une heure et demie, voire même deux heures de temps en temps. De temps en temps, j'utilise aussi un bol tibétain pour la fin du cours, toujours une petite bougie, toujours un peu d'encens, voilà. Après, dans le livre, je vais un peu au-delà parce qu'il y a des personnes qui aiment vraiment avoir un rituel, ça leur permet de rythmer leur journée, ça leur permet de s'ancrer vraiment dans leur pratique si ils ont peu de temps, ça fait un petit moment pour soi. On sait que si on sort telle bougie, si on met deux trois pierres à côté de nous, si on a, je sais pas, deux trois gouttes d'huile essentielle à mettre sur un petit mouchoir, à sentir comme ça, on sait qu'on est dedans, qu'on est dans notre pratique, et c'est toujours mieux que de faire, de se dire, tiens, j'ai deux secondes, là, je vais faire du yoga, mais je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop où.
Ouais, c'est vrai que finalement, c'est peut-être le rituel d'entrée dans la pratique qui est le plus important, en tout cas, qui nous sert vraiment de support. C'est, comme tu disais, c'est l'idée de rentrer dans ce moment qui va être spécifique dans sa journée, même si on n'en fait que 5 ou 10 minutes. Pour toi, si on doit garder qu'un rituel, ce sera ça, c'est le rituel d'entrée. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que ça peut être ? Toi, tu nous parlais de la bougie, mais j'imagine que ça peut être plein d'autres choses.
Oui, alors après, on peut commencer avec un mantra, on peut commencer, ça dépend du lieu où on se met, on peut toujours avoir son rituel de mettre son tapis là devant la fenêtre, et voilà, et ça commence. Ça peut être un rituel aussi au niveau des horaires, ça peut être, il y a tout un petit chose. Je crois que les rituels, c'est vraiment très personnel. Mais il faut trouver le truc qui nous fait kiffer quoi, et qui va nous faire entrer dans notre pratique. Et oui, je préfère faire des rituels d'entrée parce que je trouve qu'on a beaucoup de mal à se poser, et tant qu'on n'est pas assis ou allongé sur son tapis, ou on a allumé notre bougie ou enclenché, peut-être ça peut être de la musique aussi, ça peut être n'importe quoi, tant qu'on se met pas dedans, qu'on n'a pas nos éléments pour se mettre dedans, on va pas arriver à faire sa pratique bien, pour soi, quoi.
Ouais, finalement, ce rituel d'entrée, ce serait un peu comme un premier pas vers la pratique qui fait que ça y est, là, on prend ce moment, on commence et après oui, ça, il n'y a plus de retour en arrière. Enfin, c'est qu'on a vraiment décidé de le faire, quoi.
C'est ça, on appuie sur le bouton. Là, c'est bon, laissez-moi tranquille, je fais mon yoga. Il n'y a plus rien, plus personne qui va m'embêter. Limite, on coupe son téléphone. Et voilà, et c'est pour nous, que ce soit pour 5 minutes, 10 minutes. Enfin, je pense qu'on en a vraiment tous besoin. Et on a tellement de mal à se poser maintenant. Donc, yoga, pas yoga. Enfin, je veux dire, c'est pareil, il faut trouver des petits moments. Rien que pour soi, même si c'est 2 minutes, même juste de la respiration, 2 minutes. Enfin, ça fait vraiment toujours du bien de se dire qu'on se pose pour soi, on fait des choses pour soi.
Et dans l'idée de petits rituels, si on ouvre toujours notre pratique de la même façon, j'imagine aussi que ça permet d'ancrer les choses et de faire aussi qu'on va peut-être se détendre, rentrer dans la concentration, la relaxation qui va être nécessaire à la pratique plus rapidement, en fait, à force de... Il va y avoir un peu un truc pavlovien de j'allume ma bougie ou je chante mon haut, mais ça y est, ça me met dans les bonnes dispositions.
Bah oui, je pense que c'est important. En fait, il y a une mémoire du corps, mais une mémoire aussi du cerveau. Donc, le fait de faire ce geste-là avant sa pratique et de faire toujours le même geste avant sa pratique, ça nous ancre vraiment dedans et ça devient un rituel, donc ça devient une routine, quoi. Enfin, avoir une routine au niveau du yoga, c'est pas un gros mot, justement, c'est super bien. Et après, on peut ne pas faire ça tous les jours. On n'a pas forcément le temps tous les jours. Moi, j'ai mon rituel auquel je ne déroge pas. C'est mon rituel de yoga, mais c'est tous les matins quand je me lève de mon lit. Je fais 2-3 mouvements, mais 2-3 mouvements, ça peut suffire. 2-3 mouvements de yoga assise au bord de mon lit avant de me lever. Et après, je suis hopée pour la journée, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, ces petits rituels, notamment d'ouverture, ils peuvent aussi avoir une symbolique. C'est-à-dire que soit ça va être quelque chose qu'on adopte juste pour marquer le début de la pratique, mais on peut aussi y mettre plus de sens dans certains de ces rituels. Je pense aux bougies ou à l'encens qu'on allume ou la sauge. Est-ce que derrière, il y a aussi une certaine symbolique du sens? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples?
Bah, en fait, c'est surtout une intention qu'on met. C'est une intention qu'on doit mettre dans sa pratique. On peut, brûler de l'encens, on peut brûler de la sauge pour purifier son espace avant de faire son yoga. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la sauge. Donc, c'est compliqué de donner des exemples précis. C'est vraiment, je pense qu'il faut trouver ça à l'intérieur de soi, trouver ce qu'on aime vraiment, ce qu'on aime avoir près de nous pour faire notre séance, qu'on aime toucher, sentir, ce qui nous met vraiment dans une situation de bien-être, en fait.
Mmh. Oui, par exemple, une odeur, c'est vrai que...
Oui, les odeurs, ça marche énormément, je trouve. Ouais. Enfin, je suis assez sensible, moi, aux odeurs. Je trouve que c'était toujours avoir le même encens ou la même bougie ou même de l'huile essentielle, toujours avoir c'est la même odeur qui nous traverse les narines quand on commence sa séance, ça met tout de suite, c'est le cerveau se dit « Ah, tiens, celle-là, je la connais, celle-là, c'est pour le yoga ». Donc oui, je pense que ça nous implique plus.
Ouais. Et tu parlais d'intention, ce petit rituel, ça peut peut-être aussi être de poser une intention au début de sa pratique ?
Exactement, oui, on peut poser une intention. Alors ça peut changer. Là, pour le coup, c'est un rituel qui peut changer à chaque séance. Une intention, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je veux que cette séance me fasse du bien. Je veux que ce soit fait dans la bienveillance. Alors si c'est en cours collectif, ça peut être aussi la bienveillance des autres, la bienveillance envers moi-même, envers mon corps, envers mon esprit, parce que j'anime aussi des ateliers, donc j'ai des thématiques de temps en temps, et on fait toujours ça, on pose toujours des intentions sur la thématique du jour. Enfin, je trouve que c'est bien de poser une intention, ça nous permet d'aller peut-être même plus loin au niveau spirituel, parce qu'on n'est pas forcément tous spirituel justement au yoga. D'ailleurs, moi, la première, tout ce qui est spirituel, c'est pas mon truc à la base, et je le dis, il y a pas de honte à ça, c'est pas grave. Après, être spirituel, c'est quoi? Enfin bon, voilà, on peut partir aussi dans un débat, mais poser une intention, c'est déjà ça. Penser à aux bienfaits que le yoga peut nous apporter dans le moment présent, dans l'instant, c'est déjà beaucoup. Donc c'est bien à faire, c'est bien de poser des intentions au début de son cours.
Et oui, donc cette intention, évidemment, selon la pratique d'un jour à l'autre, elle va être différente. Est-ce que toi, il y a aussi des petits rituels que tu changes, alors selon la saison ou peut-être selon le moment du cycle lunaire? Toi, je ne sais pas trop si tu t'adaptes à ces choses-là, mais est-ce qu'il y a des rituels que tu trouves particulièrement adaptés à certains moments ou peut-être même à une pratique du matin? Tu ne feras pas le même petit rituel que pour une pratique du soir
Bah après, c'est surtout en termes de séances plus qu'en termes de rituels. Le matin, je ne suis pas du tout dans l'approche de faire une séance, on va dire, plus tonique. Je suis plutôt vraiment à essayer de me réveiller, de réveiller les muscles et tout ça. Donc, plutôt en douceur, donc pas de lumière. Voilà, j'ai vraiment besoin de calme, pas de musique, pas de lumière, pas d'odeur. Là, pour le coup, c'est ça mon rituel. C'est vraiment le calme complet, limite, je suis encore en train de dormir. Donc, vraiment pour me réveiller en douceur, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, après, oui, le soir, en plus, on a un peu plus de souplesse le soir parce que on a notre température corporelle qui atteint un pic plus élevé. C'est cette période de la journée, ce moment de la journée. Donc, du coup, on est un peu plus souple. Donc là, on peut s'adonner à faire... À se faire une séance un peu plus dynamique. Donc là, on est plus dans les postures et choses comme ça. Et là, je préfère être dehors. Moi, j'adore être dehors. Comme tu disais, ça change au niveau des saisons. Après, on peut avoir des petits rituels avec... Moi, je sais que j'aime beaucoup la nature. Alors, je suis bien quand, par exemple... Alors là, on approche l'été, mais je vais donner un exemple un peu plus concret. Quand on approche l'automne, moi j'adore aller ramasser des marrons, des feuilles mortes, des choses comme ça, d'avoir des odeurs vraiment de forêt, de sous-bois. Et j'adore faire ça aussi, d'avoir ma pratique et d'avoir ces petits objets à côté de moi pour me rappeler qu'on est en automne, qu'on doit se poser, on est bien. Pareil en hiver, là on est plus en mode cocooning, alors un feu de cheminée c'est royal, mais le tapis pas trop loin. Et on apprécie sa séance, on est plutôt en mode cocooning, repos, mais même si on fait du shavasana pendant une heure, ça reste du yoga, donc c'est pas grave, c'est bien. Le printemps, ce que je préfère le plus, c'est aller faire ma séance les pieds dans l'herbe, un peu fraîchement mouillée encore, les premiers rayons du soleil, les fleurs, les petits oiseaux qui chantent, enfin moi je suis vraiment une mère nature. Du coup, j'adore me connecter aux éléments plutôt que d'avoir des petits objets ou des petites statuettes ou des choses comme ça. Je préfère me reconnecter vraiment à ce que j'ai autour. Et l'été, un petit coin ombragé devant un petit cours d'eau, je pense que c'est pas mal. Ça, c'est vraiment se reconnecter pour moi à la nature et avoir sa séance. Vraiment, on est au taquet. Alors oui, pour les rituels de pleine lune, comme je suis un peu moins dans le spirituel, je fais un peu moins les rituels de pleine lune, mais j'anime quand même des ateliers sur le sujet. Donc là, on est plus sur de la purification, sur même des intentions, sur un bout de papier. On note ce dont on a envie, ce dont on a besoin, ce qui est le mieux pour nous. Et puis, on fait des petites demandes à l'univers, ça fait pas de mal.
Oui, là, ça rejoint un peu les intentions en fait qu'on pose au début, mais c'est vrai que ça peut être dans sa tête, ça peut être sur un bout de papier. Oui, finalement, il y a plein de façons de...
Oui, il n'y a pas de règle. Hein. On fait vraiment, il faut trouver le truc qui nous fasse du bien, qu'on ne se sente pas forcé de le faire parce qu'on a vu que sur Instagram, il fallait faire comme ça. Non, voilà, il faut vraiment que ça vienne du cœur, que ça vienne de soi, qu'on trouve ce dont on a besoin et puis voilà. Et puis aussi, ne rien avoir du tout et juste on fait notre pratique parce qu'on a un besoin pressant de pratiquer, de faire nos postures, de faire nos respirations. Et puis ça peut être fait n'importe où, hein. Ça peut être sur son tapis, mais on n'a pas besoin d'un tapis pour faire du yoga. Donc on peut très bien s'asseoir, prendre un temps, respirer, se mettre en posture demi-lotus si on veut sur son fauteuil. Il n'y a pas de règle. Ouais. Le yoga, c'est vraiment pour tout le monde. Et puis alors une chose très importante, c'est que ce n'est pas nous qui nous adaptions au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à nous. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que même quand on a un problème de santé, même si... Après mon épisode, je me suis retrouvée plein de fois encore en béquille et ça ne m'a pas empêchée ni d'animer mes cours, ni de faire une pratique perso, quoi.
Ouais, mais ça, t'as bien raison, c'est toujours un rappel qui me tient à cœur aussi, ça. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouve que ça peut être chouette d'essayer de voir, de tester des choses, en tout cas, par exemple, avant de se mettre à pratiquer. Ouais, l'idée d'essayer de trouver son petit rituel à soi, comme tu dis, pas pour copier forcément des choses qu'on a vues, mais c'est trouver ça. Le petit truc qui nous fait du bien, nous met dedans, nous aide à nous relaxer, que ce soit une odeur ou autre chose. Voilà, de trouver le rituel qui nous parle à nous.
Non, mais ça peut être, tu sais, ta musique préférée que tu mets, voilà, au moins tu te poses, t'as le temps d'écouter ta musique préférée, tu peux simplement aller te préparer une infusion, un thé, ce que tu veux. On a le droit de boire du café aussi, hein, c'est interdit quand on fait du yoga. Vraiment, ce que tu veux, c'est libre à chacun, c'est propre à soi. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Il n'y a pas de règles.
Ouais. Et alors, dans les choses quand même qui préexistent, il y a des mantras, tu en parlais tout à l'heure. Bon, le plus fréquent, ça va être le home, d'ouverture ou de fermeture. Est-ce que toi, tu en aurais un ou deux autres à nous proposer que tu aimes bien et qui peuvent être sympas pour se faire, voilà, ce petit rituel?
Alors, pour moi, pour ma pratique perso, je n'utilise pas du tout les mantras. Ouais. Et c'est pas grave. par contre, quand je fais des ateliers, je choisis une thématique et en général, je trouve des mantras sur Internet. Après, c'est facile de trouver des mantras sur Internet. Il y en a tellement, en fait, il y en a vraiment tellement. Il faut trouver.
Donc finalement, oui, tu préfères les chercher selon la thématique de ta séance.
Ouais, moi, je préfère les chercher selon la thématique ou alors les écrire moi-même. C'est-à-dire, c'est comme si on posait une intention. Mais simplement on écrit un mantra, en fait c'est simplement c'est comme une intention, mais qu'on, alors plutôt peut-être en clôture de séance, pour se rappeler de ce qu'on vient de faire. Voilà, alors je fais beaucoup d'ateliers sur l'amour de soi, c'est vraiment un truc que je trouve important, et donc j'oublie pas à la fin de faire réciter des phrases qui sont propres à l'amour de soi. Je suis belle, je suis intelligente, je suis importante, je suis... Enfin, tu vois, des choses comme ça que les personnes qui viennent n'osent pas forcément se dire à soi. Là, elles sont obligées parce que je les fais répéter. Donc... Mais, et au final, les mantras, en fait, ce sont des mots qui résonnent en nous. Et le fait de les répéter et tout, ça devient quelque chose de récurrent, ça devient acté à force. Donc, c'est surtout ça, en fait, un mantra. Il n'y a pas de... Il y en a des préétablis, mais je veux dire, le mieux, c'est de trouver celui qui nous convient.
Ouais. Et ça, c'est vrai que bon, tu le présentes plutôt comme un rituel de clôture de la pratique, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. En tout cas, c'est important de ne pas sortir trop vite de la pratique, et c'est en ça que trouver une façon d'en sortir de manière ritualisée va aider. Je sais qu'en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose que les profs font souvent faire, hein, quand ils nous font sortir du Shavasana final, hop, on ne se relève pas d'un coup. Enfin voilà, il y a souvent toute une petite série d'étapes. D'abord, remettre du mouvement, passer sur le côté, oui. Puis trouver sa façon de se relever. Ça, c'est intéressant aussi pour...
C'est ça, et après, la manière de se dire « au revoir », entre guillemets, il y a toujours un petit mantra, mais moi, enfin, je reste aussi élève, j'ai des profs aussi, je vais encore en cours de temps en temps, et c'est vraiment finalement propre à chaque prof, je trouve. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, il y en a qui le font de temps en temps, ça change, c'est vraiment, c'est surtout aussi un remerciement, un peu le namasté au final, hein, qui va nous clôturer notre pratique ou le cours auquel on assiste.
Ouais. Et ça d'ailleurs, c'est vrai que c'est peut-être une chose qu'on a tendance à zapper davantage quand on pratique à la maison, parce que quand tu es en cours collectif, tu suis les indications du prof ou de la prof, et donc souvent il y a un temps qui est vraiment attribué à ça, à sortir en douceur de la pratique, et peut-être que quand on est chez soi, il faut se forcer à le faire aussi, parce qu'on aurait tendance à faire aller 2 minutes de Shavasana en pensant déjà au truc qu'on a à faire derrière. Donc peut-être y prêter encore plus d'attention finalement quand on est chez soi, à se trouver un rituel de sortie, même si on veut que ce soit pas très long, mais...
Oui, encore, t'es gentille, hein, parce que je suis pas sûre qu'on fasse tout le Shavasana après sa pratique. Tout et tous, non, c'est compliqué. Même moi, des fois, tu fais ta pratique et tu dis, bon, allez, c'est bouclé, c'est bon, j'ai fait. En fait, ce qui est dur, c'est de prendre le temps pour soi. Et quand t'es en cours avec d'autres personnes, ou même quand tu fais un cours particulier, t'es dirigé, on va dire. T'es guidé. Et c'est plus facile de se dire, bon, ce sera fini quand on me dira que c'est fini.
Et oui, on te laisse pas le choix, en fait.
C'est ça, t'as pas trop le choix. Et c'est pour ça que des fois, je retourne à des cours, parce que j'ai beaucoup de mal avec ma pratique perso. Alors, surtout depuis le Covid, hein, ça m'a un peu anéanti, cette histoire de Covid, parce que moi, je pouvais plus donner de cours. Ma salle était fermée. Et du coup, petit à petit, j'ai perdu ma propre pratique. Et ça a été un coup un peu dur. Et là, je reprends petit à petit. Et en reprenant, je me rends compte qu'il y a tellement de façons différentes de faire du yoga. Et je trouve que c'est génial. Et voilà, maintenant, j'ai aussi des profs. Et je suis contente d'être élève. Je pense que quand on est prof de yoga, il faut continuer aussi d'être élève, parce qu'on apprend tellement des autres. Et pour revenir, à la pratique à la maison, quand on est tout seul, le Shavasana, c'est vraiment compliqué de se mettre dedans. Autant, je trouve que c'est plus facile de se mettre dedans au tout début, parce que, hop, ça y est, on se pose, on est dedans, et petit à petit, le corps se met en mouvement et on passe aux pratiques, on passe aux postures, autant terminer et prendre du temps pour soi à la fin, c'est beaucoup plus compliqué, mais je pense qu'il faut le faire, il faut vraiment le faire. Non seulement ça clôture ça ferme la boucle, quoi. On essaye de sortir de notre bulle, mais en plus, c'est tellement bon pour le corps et l'esprit. Donc, ce ne sont que des bénéfices.
Alors là, c'est vrai qu'on a parlé des rituels, beaucoup d'entrée et de sortie de la pratique, mais finalement, toute la pratique posturale en elle-même, dans certaines pratiques de yoga traditionnelles, peut être très ritualisée. Je pense aux 5 tibétains ou à l'ashtanga, où tu as une même série de postures qui va se répéter d'un cours à l'autre, etc., où on va faire toujours la même chose. Pour toi, qu'est-ce que ça peut apporter, cette ritualisation de la pratique et des postures en elle-même, le côté très répétitif, en fait ?
En fait, c'est surtout après une mémoire du corps. Donc, plus tu répètes tes mouvements, plus tu répètes tes postures, plus tu les vois même plus passer, quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que t'es dans ton truc sans forcément t'en rendre compte. C'est comme... tu vois, à l'équinoxe de printemps, quand tu fais tes 108 salutations au soleil. Alors perso, je ne l'ai jamais fait et vous ne me verrez jamais faire ça.
Oui, moi non plus, ça me paraît un peu intense, mais bon, pourquoi pas, on peut en faire moins.
Oui, alors ça me paraît vraiment intense. Et alors moi perso, j'ai toujours des soucis de santé et c'est juste pas possible pour moi de le faire. Ensuite, voilà, ça te met en fait dans une espèce de transe. Et c'est ce qu'on reproduit, entre guillemets, sur de l'ashtanga ou les 5 tibétains. Mais c'est-à-dire que finalement, tu te mets sur off au niveau de ton esprit. C'est ton corps qui gère tes postures. Et ensuite, tu reviens pour tout ce qui va être respiration, choses comme ça. Alors, tu progresses, oui et non, parce qu'au final, tu vois les mêmes choses. Mais ton corps a une mémoire qui, donc du coup, plus tu le fais... plus tu vas plus loin dans tes capacités. Après, la répétition, c'est bien pour le corps et pour l'esprit. Mais moi, je suis... alors, si tu veux qu'on parle franchement, moi, je ne peux pas faire ça tout simplement parce que j'ai du coup une maladie génétique qui est très impactante au niveau des muscles, des articulations et des tendons. Donc, je ne peux... ni tenir une posture longtemps, ni la répéter à outrance. Donc, c'est quelque chose que je ne fais pas et je ne peux pas enseigner quelque chose que je ne peux pas faire. Ouais. Voilà.
De toute façon, c'est vrai que c'est valable pour beaucoup de monde. Hein. Tu as raison, la répétition, surtout si elle est très, très, très fréquente et intensive, ça peut aussi être source de blessures. Hein. On en a parlé dans un autre épisode. Donc, oui, peut-être que là, dans ces pratiques-là, peut-être qu'il faut toujours trouver un équilibre avec d'autres pratiques qui vont permettre des mouvements différents, ne serait-ce qu'effectivement pour soulager le corps et ne pas lui imposer toujours la même chose.
Oui, c'est ça. Si on fait du yoga qui est logiquement pas fait pour traumatiser son corps et qu'on le traumatise quand même, c'est un peu compliqué. Après, chacun son domaine, chacun son truc. Il faut essayer, il faut voir si ça nous convient. Il faut toujours essayer de toute façon.
Oui, et puis c'est vrai que cette histoire de pratique très ritualisée ou plus libre, c'est sans doute aussi une question de personnalité. C'est-à-dire que si tu as des gens qui vont avoir besoin de cette routine, de cette répétitivité, ils vont s'épanouir là-dedans, et d'autres qui ont besoin d'avoir un cours différent à chaque fois, sinon ils s'ennuient.
C'est exactement ça. Et alors moi, j'ai tendance déjà à m'ennuyer, donc je ferai jamais le même cours, je pense. Et oui, c'est pas comment la répétition de mouvements, c'est pas fait pour tout le monde. Et puis il y en a d'autres qui veulent tout voir, tout essayer, donc c'est compliqué, il faut trouver un juste milieu.
Et alors, si on veut essayer un cours avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver pour pratiquer avec toi?
Alors moi, j'habite à côté de Troyes, donc on peut me trouver pas loin de cette ville. Je fais des ateliers chez moi, j'ai une petite salle depuis le mois de septembre. On tient à pas beaucoup, on fait des ateliers de 2 heures, on est 6, plus moi, ça fait 7. C'est donc avec des thématiques différentes à chaque fois. Et sinon, je m'implique beaucoup dans le yoga événementiel, on va dire. Donc, je fais des prestations, en l'occurrence, tout l'été, tous les week-ends, je fais un cours de yoga dans un restaurant, dans un beau jardin, avec vue sur le lac. Et ensuite, tout le monde peut profiter d'un bon brunch. Donc c'est mon type de yoga préféré, on va dire. C'est toujours vraiment dans la bonne humeur et dans le partage et dans la convivialité. Moi, c'est ce qui me plaît le plus. Donc,
Bah écoute, ça a l'air très sympa, ouais. Et du coup, si on veut retrouver les infos et te contacter si on habite dans ta région, c'est plutôt par Instagram ou...
Oui, j'ai deux comptes Instagram. J'ai mon compte perso, mais au final, qui regroupe absolument tout parce que c'est là-dessus que passent toutes mes infos, qui est donc Charline Girardel, donc mon nom. Et j'en ai un autre que j'ai créé il n'y a pas longtemps, qui est Yoga by Sha, où j'avais justement des intentions de mettre plein de vidéos et compagnie, mais je suis rattrapée par le temps. Et pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais ça va pas tarder à venir.
D'accord, à suivre. Bah, je remettrai évidemment tout ça, comme d'habitude, dans la description de l'épisode.
Et sinon, bah, mon livre est toujours disponible.
Voilà.
Toujours disponible. Il est... Ouais, dans toutes les librairies, il a été justement réédité là cette année. Il est sorti en 2020 pendant le Covid et il a finalement bien fonctionné quand même, et donc il a été réédité au mois de janvier 2022. Donc c'est plutôt chouette. C'est que ça plaît. Ouais. Donc c'est bien.
Super. Bah écoute, merci beaucoup Charline pour tous ces petits conseils et ces observations.
Mais c'est moi qui te remercie, Laura.
À bientôt.
Et ben à bientôt.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast et souhaitez l'aider à grandir, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle conversation autour du yoga.